Chapitre 10. Pierre, depuis un mois, n'avait pas revu sa compagne. Bien qu'il connût son adresse, il hésitait à descendre chez elle, par timidité autant que par prudence. Un matin, il partit pour Saint-Mandé, où M. Jaume le réclamait obstinément. Lorsqu'il parut à la lisière du bois, contre la grille du petit pavillon, M. Jaume, avec enthousiasme, s'écria « Enfin, qu'est-ce donc qui t'a décidé à venir ?» « Je crains que mes aptitudes ne répondent pas au travail que vous souhaitiez de moi. »« Ne mens pas. Ce qui t'a décidé, c'est que tu t'imagines que, grâce à moi, tu te rapprocheras facilement de la Payse. »« Bon, bon. N'importe, je n'ai peur de personne. Mais si tu tiens à gagner de l'argent, il faut que tu me serves. Ta Payse a un béguin pour un maçon, c'est ridicule. »« Vous me promettez de faire ma fortune ?» Pardon, il faut d'abord que je passe ma fantaisie. » À ces mots, Pierre blêmit de dégoût, serra les poings. Tu te fâches, goguenardin, monsieur Jaume. Vois-tu, le monde est ainsi fabriqué que tout, même l'honneur, s'y vend aux enchères. Mathilde, par exemple. Que dois-je faire? Aujourd'hui, rien. Demain, je t'accompagnerai à Vincennes, où il s'agit, dans une des allées du bois, de surélever un pavillon d'un étage. Ma journée d'aujourd'hui est fichue. Non, je te la paierai. Je vais l'inscrire. Monsieur Jaume, dans un coin de la salle à manger, s'installa à son bureau et, sur un livre énorme, il inscrivit des notes, tandis que Pierre, debout, chapeau bas, attendait. Il se releva, très satisfait de son ouvrage, et dit « Nous allons nous amuser. Puisque Mathilde t'écoute, tu me l'amèneras ici. »« Moi ? Elle ? Ah, je tiens mes conditions, il te faut tenir les tiennes. » »« Entendu. » Pierre s'en retourna, une ombre au cœur, se promettant de duper le riche de Saint-Mandé, aussi lestement qu'avec l'intelligence de Mathilde, il dupait les autres. Monsieur Jaume, selon son habitude, ferma la porte de la grille à double tour. Puis, en se frottant les mains de plaisir, il remonta chez lui pour descendre de l'autre côté arroser son jardin. À peine adaptait-il la manche de caoutchouc à la bouche de la fontaine qu'un carillon terrible agita le silence. Sa cloche! Il la reconnaissait à sa voix argentée entre les cloches au son si différent du voisinage. En bras de chemise, pâteux, il courut ouvrir. Oh, stupeur! Madame Mathilde Lampéric, en compagnie de M. Léon Baudouin, appuyait son front clair au barreau de la grille et riait, riait, comme une demoiselle en romanesque aventure. Tous deux venaient, chacun représentant une moitié de l'association du boulevard Poissonnière, flatter M. Jaume dans sa maison. Le magasin de vin ne marchait pas fort. Par leur ostentation de luxe, Baudouin et Lampéric avaient ému ces badauds que sont les Parisiens. Mais il fallait, pour les pousser dans la boutique, les fouetter avec de la réclame, qui, malheureusement, coûtait trop cher. M. Jaume, malgré ses promesses réitérées, n'avait encore rien sorti de son magot. Que risquait-on de le sonder, une fois pour toutes, en ses intentions véritables ? Pour mieux le séduire, Sébastien, qui avait honte parfois de la petitesse de sa taille, lui avait mandé son beau parleur de Léon et sa sémillante Mathilde. Rien que d'apercevoir Mathilde au barreau de sa grille, M. Jaume frissonnait de contentement. Ce fut avec effusion que, la porte ouverte, il lui tendit la main. Certes, la présence de M. Léon le gênait. Seulement, qui diable savait si l'associé lui-même ne courtisait pas Mathilde ? « Entrez donc, s'écria-t-il. Oh, quelle surprise !»« Pardon de nous présenter si matin, répondit Léon. Nous vous apportons une bonne nouvelle. » Monsieur Jaume, parce que Mathilde était devenue une dame d'importance, introduisit ses visiteurs dans le salon. De vieux meubles, un tapis, des bibelots ornaient la pièce avec une élégance qui étonna. Souriant de bonhomie, il servit du vin dans des verres de cristal. Tandis que Mathilde, seule sur le canapé, pépillait à propos des vertus bienfaisantes de la campagne en été, les deux hommes, assis en de larges fauteuils, s'extasiaient devant la vivacité de sa personne charnue et souple, aux dents aiguës, aux joues fermes trouées parfois de fossettes. M. Jaume, cependant, soufflait du poids de sa corpulence, les mains au ventre, lorsqu'il voulait penser. Pourquoi venait-on le déranger chez lui? Était-ce pour l'agrément de sa société? Il se défendait un peu des minauderies de la femme lorsque, soudain, elle rompit la conversation banale et, après un claquement de sa langue, repartit. « Nous venons, monsieur Jaume, vous inviter officiellement à notre dîner de gala. Vous vous souvenez ?»«
Moi ?»«
Nous pendons la crémaillère rue Chauchat et nous célébrerons aussi la fondation du magasin. »«
Ah oui, je me souviens. »
Tandis que M. Jaume observait Mathilde avec méfiance, Léon, hautain chevalier de la dame, insista. « Nous avons cru que cela vous ferait plaisir. »«
Certainement.
Vous savez, on dînera sans façon. »«
Je le pense bien, car moi, je n'ai guère l'usage du monde. »«
Ni moi, » riposta Mathilde, « mais ça se prend vite. » Dans un accès d'hilarité, elle se renversa sur le canapé, si fort qu'on aperçut, le temps d'un éclair, ses bas de soie noirs. M. Jaume se mit à rire, et Léon de même, sans retenue.
« Donc, à samedi soir ?»«
Oui, madame. » Elle se dressa d'un saut, planta sur le tapis son ombrelle, ainsi qu'une épée, en un geste de vaillance. Elle ordonnait le départ à son cavalier, lorsque M. Jaume les rappela. « Venez voir mon enclos. » Pour le flatter, on descendit dans le jardin. Il le soignait mieux que son corps. Pratique même dans ses distractions, il l'obligeait à produire des fruits, presque pas de fleurs. Les petits arbres s'alignaient sagement au soleil, nettoyés chaque jour de leur vermine, vêtus de feuillage qui miroitaient comme des blouses neuves d'écoliers. Parmi ces verdures, dans le bourdonnement des guêpes et la chanson des oiseaux, Léon retrouvait une image des jardins qu'il avait aimés jadis, autour de Nézignan-l'Évêque. Il se divertit puérilement, au fond de l'enclos, d'admirer les poules dans un poulailler très propre. Mathilde, au contraire, se lassait vite des choses de la nature quand elle se présentait trop bien peignée, avec des airs de dimanche. Elle s'était éloignée vers une plante sauvage dont la fleur de sang, à l'ample calice épanouie, s'ouvrait sur une tige altière. M. Jaume s'approcha d'elle et, feignant de lui expliquer l'histoire de cette plante qui était le joyau de son jardin, il lui glissa dans l'oreille « Pierre était chez moi plus matin que vous. »«
Pierre, aujourd'hui ?»«
Oui, tout seul. Vous avez failli le rencontrer. »«
Que faisait-il ici ?»
Il vous le dira s'il est honnête et intelligent.
Pierre, Pierre,
il vous aime toujours comme moi.
Taisez-vous, voici M. Léon.
Celui-ci s'approchait en caressant sa barbe. Mathilde affecta aussitôt, si habile à dissimuler, sa gentillesse de jeune épouse.
Nous partons, M. Baudoin.
À vos ordres, madame.
Eh bien, M. Jaume, à samedi, nous serons heureux.
Et moi, madame ? Elle se sauvait avec une répulsion involontaire du logis de ce vieux qui fermait la marche, à demi voûté par sa corpulence, par l'effort de chercher des politesses qu'il ne trouvait pas. Sur la porte, il craignit, devant la hâte de Mathilde, de l'avoir fâchée par cette évocation intempestive de Pierre. Ce fut avec insistance, même en saluant Léon, qu'il garda sa main glacée entre les siennes, énormes et chaudes.
« Comptez sur moi, lui dit-il.
Oui, pour tout. »
Les deux visiteurs s'échappèrent. Il ne put, dans sa jalousie, les regarder longtemps par l'allée déserte, si unis, bras à bras.
Mathilde marchait rapidement, sans parler. Le souci d'amour, à la vision de Pierre, l'avait reprise.
« Promenons-nous dans le bois, » proposa Léon. « Nous avons le temps. »«
Volontiers, » répondit-elle. Ils pénétrèrent dans le bois, par la route large du polygone, où passaient des officiers à cheval, des bicyclistes et, là-bas, une lourde voiture de déménagement. Dans le silence des buissons et des futaies, à l'âcre odeur de l'humus, ils éprouvèrent une émotion de vie libre, rajeunie, de joie sensuelle, qui, sans les confondre, gardait en chacun d'eux encore de la pureté comme le ciel sur les feuillages. Léon, sans qu'elle parût s'en rendre compte, la conduisit brusquement par une allée étroite au cœur du bois.
Il la serrait avec plus de force contre lui. Il semblait à Mathilde que c'était Pierre qui allait l'embrasser. « Si on pouvait, Mathilde, dit Léon tout bas, s'asseoir sur l'herbe. »«
Marchons, répondit-elle en détournant les yeux.
« Il n'y a personne. »
« La Marne, je voudrais voir la Marne, les coteaux de Champigny. Où est-elle ? »
« Là, devant nous. » Il la soulevait un peu dans leur élan léger. Elle allait pourtant d'un pied hardi, avec une volupté de mouvoir son corps dans du soleil et des ombrages, au souffle du grand espace qui lui frappait les joues et s'insinuait jusque sur sa poitrine plus fraîche. Ils s'engagèrent le long du polygone, derrière les buttes du tir militaire, dans une allée touffue presque sauvage. Le silence y tombait si profond qu'ils n'entendaient plus rien que le bruit rythmé de leurs pas. «
Êtes-vous fatigué ? » demanda-t-il.
« Non. Quelle ivresse de marcher ainsi tout droit, sans les obstacles des voitures et de la foule, et de se purifier les yeux de la vue de tant d'hommes laids.
Ils ne vous plaisent donc pas tous ?
Vous en doutiez ?
Ma foi, non. »
Il se penchait sur son épaule, essayait, avec un frémissement simulé de pudeur, d'enlacer victorieusement sa taille. Loin de le repousser, elle retrouvait à son contact la caresse de Pierre, une caresse plus délicate, et, lui pressant le bras contre son sein, elle dit
« La Marne, où est-elle ? »
« Bientôt. » Il l'arrêta soudain, et d'une bouche furtive, il lui baisa le front. Elle le regarda, surprise d'une familiarité si courageuse. Mais, riant avec ironie, elle l'entraîna dans l'allée presque sombre, sans qu'il eût délié son étreinte.
« Êtes-vous étonné qu'on vous trouve belle ?»«
Non. »«
Êtes-vous offensé qu'on vous le dise ?»«
Peut-être. » De nouveau, sans s'arrêter, il la baisa, mais sur la joue, d'une bouche plus sûre.
« Assez, cria-t-elle, il me tarde de sortir de ce bois.
Je voudrais qu'il durât l'éternité. »
Rien n'est éternel.
L'amour dans le mariage est pourtant fixé pour une éternité.
Peut-être.
Vous répondez invariablement peut-être, mais vos sentiments, soit que vous aimiez, soit que vous haïssiez.
C'est moi que j'aime, je prends la joie où je peux.
Entre les arbres clairsemés, luisait enfin un vaste panorama de terre et de ciel. Mathilde éclata de rire, plus désirable en l'exubérance de ses formes qui s'agitèrent. Au bord d'une route blonde, sur un gazon, ils ralentirent leur marche. Sans mot dire, elle s'arrêta, et, auprès d'elle, son cavalier docile. Au-dessous d'eux, la plaine immense, où la Marne décrit paresseusement sa boucle dorée, s'épanouissait avec une majesté gracieuse, bourdonnante de cités, de jardins et de bois. Le coteau de Champigny s'élevait au loin, parmi des vergers et des vignes, dans la lumière plus douce ce matin que le dimanche de fête, dont elle avait, pour l'enchantement de ses yeux et pour les rêves de son cœur, emporté l'image. Droite, les mains appuyées sur le manche de l'ombrelle, sans bouger, elle contemplait ces chemins déserts à cette heure, ce paysage isolé, là-bas, qui lui semblait sacré, parce qu'elle y avait eu peur d'aimer, entre les bras de Pierre. Et toute la beauté riante de la terre et toute la clarté sereine du ciel venaient à elle pour ajouter aux vertus de son corps leur poésie.
« Que cherchez-vous là-bas ? » lui demanda Léon.
« Rien. Venez. » Il la pressa vainement de questions. Elle lui parut, dans le mystère de son être, plus redoutable et précieuse. Au café de Gravel, sur le sommet du plateau, ils se reposèrent. Elle se tournait constamment vers la plaine, vers le coteau lointain, que son souvenir et son espérance paraient d'une paix divine. Si Léon l'effleurait des mains ou des pieds, elle ne reculait point, car le désir de cet homme répondait maintenant à l'anxiété qui dévorait sa chair.
« Rentrons, dit-il, nous arriverions à Paris trop tard. Il ne faut pas qu'on vous soupçonne de... »«
C'est vrai, partons. » Ils s'en allèrent, calmes en apparence, à la rencontre du tram sur la route de Joinville. Mais dans un bosquet, Léon s'empara de sa compagne avec brutalité et la baisa sur les joues. Au lieu de se défendre, elle s'abandonnait dans une sorte de vertige. il connut une félicité si nouvelle que tout courage désormais lui manqua. Le tram sonnait de sa corne rauque. Ils durent courir pour le joindre. Devant le monde, ils échangèrent un sourire de malice comme des époux en promenade. Bien tard, vers 1 heure, Léon ramena Mathilde chez elle. On les gronda, surtout Berthe, qui s'invita elle-même à déjeuner, ainsi que son mari. À table, Berthe osa, sous prétexte de plaisanter un peu, flanquer Léon de Mère Adèle et de sa propre personne. Ainsi emprisonné, il ne pourrait rien tenter d'amoureux contre Mathilde. Mais tous les deux, en racontant leur visite chez M. Jaume, bourgeois solitaire indigne de ses rentes, s'épillaient en dessous avec une espièglerie coquine. Et Berthe, agitée par la colère, eut à plusieurs reprises la velléité de leur jeter à la face son mépris. Elle se contint, par politesse moins que par intérêt, pour ne pas troubler dans sa sécurité Mère Adèle, ni dans son imprévoyance le débonnaire Sébastien, qui, béatement, se divertissait des facéties de son épouse. Elle se contracta sur la chaise, plus petite et plus maigre, son visage de pommeraie nette plus parcheminé d'un réseau de rides. Léon s'inquiéta de lui voir cette moue tenace. Il s'ingénia, non sans précaution, à l'attendrir. Elle le rabroua d'abord d'un coup d'épaule. Puis, comme il insistait, au point de lui chercher les jambes sous la table, elle le repoussa d'une ruade qui le fit pâlir de douleur. Alors, craignant le danger de quelque bataille, il voulut, après le café, déguerpir. Mathilde, toujours adorable en ses ruses, embrassa Berthe largement. Celle-ci, d'ailleurs, paraissait lui demander la paix. Les Baudois partirent. Il n'avait pas fait 10 pas dans la rue que Berthe, tirant son mari par la manche, maugréa « Cette femme se moque de nous. »« Hein ? De qui tu parles ?»«
De Madame Lampéric. » »«
Ne crie pas si fort. » »«
Peu m'importe. » »«
Ah, pas à moi. » »«
Pourquoi pas à toi ? Tu avoues donc que vous avez des secrets ensemble ?»
Ne sois pas si naïve, tu ne tiens pas à briser notre association.
Je m'en fiche, je briserai tout, moi, ton commerce, ton amitié avec ces Lampéric, notre séjour à Paris, si tu continues.
Tu quitterais seul Paris, moi, je reste.
Je sais pourquoi. Eh bien, si tu me trompes, oh, je ne dis pas que tu es succombé dans l'abîme du péché, mais que tu es là sur le bord. Et si tu continues, je te tromperai à mon tour.
Toi ? Pfou ! Ah, que c'est drôle !
Au grand désappointement de sa femme, Léon ne cessa de rire tout le long de la rue Drouot jusqu'au boulevard où ils naviguèrent plus à l'aise. Elle se suspendit à son bras et, marchant à menus pas saccadés, elle lui répéta, d'une voix revêche qu'enrouait le courroux :
Pourquoi ris-tu ?
Je ris de tes menaces. Toi, me tromper, comment t'y prendrais-tu ?
Comme les autres femmes.
Avec qui ?
N'importe qui.
Ah bon, tu ne choisiras pas. Autrement, un bel homme ne voudra jamais de toi.
Est-ce que je suis trop laide par hasard ?
Une angoisse si cruelle la serrait à la gorge qu'elle dut s'arrêter au milieu du trottoir. Léon vit ses lèvres pâles trembler de douleur et luire dans leurs orbites creuses ses yeux blancs de méchanceté. Comprenant qu'il avait offensé dans son honneur de femme, il lui tendit la main timidement, avec un air de contrition.
« Viens avec moi au magasin. »«
Non, je ne veux pas de ta pitié. Ah, puisque tu veux succomber dans l'abîme de l'adultère, moi aussi, n'aie pas peur. »
Après un geste de bravade, Berthe s'éloigna sur le boulevard, bientôt perdue dans les remous de la foule. Léon dut jouer des coudes pour se dépêtrer d'un tas de badauds qui, déjà, l'interrogeaient sur les motifs de sa querelle.